Nous accueillons maintenant Benjamin au 3921. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous ?
Eh bien ça va bien, merci en tout cas de me donner la parole et de donner la parole aux vrais gens, on va dire.
Je vous en prie. Alors, dites-moi tout.
Eh bien alors moi, je voulais vous faire part un petit peu, je voulais témoigner de mon enfance atypique et qu'est-ce qu'elle a provoqué chez moi aujourd'hui.
D'accord.
Donc, j'ai vécu et voyagé enfant à l'âge de 2 ans vers les sociétés aborigènes en Australie.
Oui.
Voilà. Donc ça a été de mes 2 ans à mes 4 ans. Et ensuite, parce que je suivais mes parents, ma mère travaillait à l'époque pour le journal Le Monde. Oui. Elle a été missionnée à Sydney. Donc on est parti. Et une fois sur place, ils se sont passionnés pour l'art aborigène.
Oui.
Et moi, j'ai eu toute une enfance voyageuse. C'est-à-dire chez les aborigènes en Australie, puis ensuite chez les Indiens Navajos aux États-Unis, et aussi chez les Tibétains dans le nord de l'Inde. J'ai notamment été au monastère du Dalai Lama,
oui,
à Dharamsala. Et donc ça a été toute mon enfance, on va dire, de mes 2 ans à mes 8-10 ans, vous voyez.
Quelle chance, une enfance voilà. riche.
Riche, atypique, bouleversante.
Oui.
J'ai pu rencontrer, alors je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais l'art aborigène est un art pictural à base de points.
Oui.
Et quelques mois avant qu'il meure, j'ai rencontré le Picasso australien, à savoir Robert Thomas, qui est un peintre aborigène mythique. Il faut savoir que ses œuvres, on se les arrache partout dans le monde.
Oui.
Et moi, les derniers jours de sa vie, il était sur un matelas, posé à même le sol, avec une canette de bière, et il était au courant de rien du tout de ce qui se passait, à savoir de la valeur de son art.
Et pourquoi cela ? Personne ne lui avait dit que son art avait explosé, ou alors, en tant qu'artiste, il n'attachait pas d'importance à l'aspect matérialiste des choses ?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il n'attachait pas d'importance à l'aspect matérialiste des choses, parce que c'est,
ouais,
des sociétés pour lesquelles l'art est primordial. Ils sont tous plus ou moins artistes, les aborigènes, les Indiens Navajo, les Tibétains. Ils placent l'art au centre de nos vies.
Ouais,
Pour eux, on doit créer nos vies. Et on doit tous être le créateur de notre existence. Et je pense qu'il y avait de ça. Et il y avait aussi, on va dire, de la part des producteurs, je les appellerai comme ça, des galeristes blancs, occidentaux, ben, ils ont vu un appât possible.
Ouais,
Et comme eux ne sont pas du tout dans ces logiques-là, ils sont des logiques autres, et ben, ils étaient une proie facile. Voilà. Alors c'est peut-être un petit peu caricatural comme je vous le présente.
Non, mais c'est un grand classique que vous nous présentez,
voilà,
là.
Mais je l'ai vraiment vu. Et mon corps et mes émotions l'ont éprouvé. Donc c'est un témoignage ce soir de vérité. Et je crois que les grandes pensées viennent du corps et qu'on doit éprouver les choses pour ensuite pouvoir les penser.
Mm-hmm.
Avoir une expérience aussi large que possible. Et ensuite, je trouve qu'en tout cas, la force vient de l'apprentissage, mais l'apprentissage du corps. Et tous ces savoirs sont principalement là-dessus, à savoir le corps, les émotions. Et j'ai participé à des cérémonies aborigènes, j'ai participé à des cérémonies avec les Indiens Navajos, j'ai participé à des cérémonies avec les Tibétains, et on atteignait à des zones de l'esprit inimaginables, vraiment. Il faut le voir pour le croire. Parce que souvent, on peut les représenter, vous voyez, sous un côté un peu
caricatural,
comme des huberlus, vous voyez, un peu perchés dans un monde, alors que pas du tout.
Oui.
Ils sont loin de la caricature qu'on en a, à savoir qu'on peut avoir dans les films de western avec des Indiens et des plumes. Moi, je n'ai pas vu ça du tout.
Mm-hmm.
Je vois des êtres d'une grande intelligence, avec un savoir, et ce savoir-là, il me semble, peut être bénéfique aussi pour nos sociétés occidentales. Et nos sociétés occidentales ont à apprendre aussi de ces peuples-là et de ces savoirs-là.
Mais vous savez,
comme disait le philosophe. Oui, allez-y.
Vous savez, Benjamin, il y a quelques jours, j'ai vu un reportage sur France 5 concernant une tribu, je pense que c'était en Somalie, et je me suis fait la réflexion que le monde aujourd'hui, surconsumériste, produisant autant d'ordures et de mal pour notre environnement, à tous. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on voit combien il y a une prise de conscience, et surtout des jeunes générations, le fait que nous sommes en train de tout bousiller. Et je me suis dit que finalement, aujourd'hui, ces gens qu'on avait longtemps considérés comme les pauvres, comme les délaissés, étaient vraiment proches au jour le jour des valeurs de la vie. Mais ce que je veux dire, c'est des choses simples que cette vie nous offrait et que leur vie leur offrait, et que finalement, ils étaient sûrement beaucoup plus proches que nous de cette vérité dont vous parlez, de cette vérité qui est notre conscience, notre esprit, la conscience de notre esprit, la conscience de notre capacité à nous connecter à nous-mêmes, mais aussi à retranscrire à travers l'art toutes ces émotions et tout ce savoir. Oui. Donc, ça me parle beaucoup ce que vous racontez.
Vous voyez, et même par exemple, on parle peu aussi de leur médecine. Il faut savoir, par exemple, les Indiens Navajos considèrent que la maladie est une chance. Est une chance de retrouver un état d'équilibre plus grand qu'avant de tomber malade. Mmh. Et ça, on l'entend pas toujours de nos médecins occidentaux. Vous voyez, de voir la maladie comme une chance, c'est quand même une pensée d'espérance.
Oui, oui. Alors, c'est la voir comme une espérance de la vaincre, de la combattre, et donc de se sublimer un peu, de se dépasser. Qu'entendez-vous par là ?
Ben, surtout qu'ils considèrent, par exemple, ils parlent même du cancer. Ils considèrent, les Indiens Navajos, que souvent dans ces maladies, c'est dû à un déséquilibre profond, intérieur, de notre environnement, de notre équilibre profond. Ouais. Et que souvent, ces impacts psychologiques, ben forcément, ont un impact sur nos vies physiques. Et donc, peuvent provoquer des maladies graves, physiques. Et donc, forcément, quand on touche à ces maladies physiques, forcément, avec eux, nous oblige à essayer de re-questionner notre environnement, les gens qui nous entourent, notre vie, nos rêves, où on en est, vous voyez. Et donc, c'est peut-être la possibilité, par exemple, d'aller vers une autre vie, peut-être, pour certaines personnes, et de se dire, maintenant que je suis face à la maladie, face à la mort, peut-être que j'ai envie de profiter pleinement de ma vie et d'oser faire ce que j'aurais jamais osé auparavant.
Ce qui arrive régulièrement à des personnes qui affrontent la maladie et qui, lorsqu'elles l'ont vaincue, vous parlent de tout ce qu'elles apprécient, de choses simples ensuite.
Oui, oui, et de revenir parfois à l'essentiel.
Exactement. L'essentiel étant fait de beaucoup de choses simples, finalement.
Complètement. Et c'est vrai que ces peuples-là, ça a été une enfance, on va dire, très riche, voyageuse, et qui m'a laissé, on va dire, un souvenir impérissable. Et pour vous dire aussi, c'est vrai, quand je suis revenu en Occident, sachant que j'ai eu cette enfance, on va dire, particulière, atypique, j'ai regardé. Quand je suis revenu en France, je voyais j'avais l'impression qu'on me regardait différemment, et je regardais aussi les autres différemment. Et donc, ça m'a longtemps mis de côté, on va dire, un petit peu sur, dans un monde, on va dire, parallèle, entre guillemets. Ouais. Et plus tard, aujourd'hui, ça en devient une force.
Ouais, c'est-à-dire qu'on vous considérait un peu comme étant sur une autre planète ?
Ben oui, j'avais eu une vie différente, j'avais eu une enfance différente, et donc vous savez comme sont les enfants, même la scolarité, les professeurs, etc. Et donc c'est vrai que ça a été tout un cheminement pour moi, avant de pouvoir vraiment retrouver cette force que j'ai éprouvée très tôt. Voilà, ça a été un vrai cheminement une fois que je suis revenu en Occident, en France, avec d'autres valeurs, avec d'autres principes de vie. Et j'ai eu tout un temps d'adaptation.
Quel âge avez-vous ? Quel âge avez-vous, Benjamin ?
Ben maintenant, j'ai 35 ans.
D'accord, très bien.
Voilà. Et alors, c'est vrai que j'ai pu, je ne sais pas si on peut parler tout de suite, mais j'ai pu trouver une entrée par le biais de l'art,
oui,
et du théâtre. Parce que dans le théâtre, comme chez les Indiens Navajos et les Tibétains et l'arabe origène, il y a la force du présent. C'est-à-dire cette demain n'existe pas, hier n'existe pas, c'est le présent et notre rencontre à l'autre qui existe.
Oui.
Alors j'ai fait une école de théâtre, on va dire classique, au Théâtre National de Bretagne, à Rennes. Et c'est vrai que même dans l'école, je me sentais pas totalement compris. Donc je suis parti en tournée dans les grands théâtres français comme comédien, etc. Puis j'ai formé une structure, une compagnie de théâtre.
Oui.
Et je suis tombé, je ne sais pas si vous connaissez, sur les poèmes d'Alexandre Romanès.
Non, je ne connais pas.
Qui dirige un petit cirque Zigane à Paris.
Oui.
Ce sont des gitans. Et vous savez, la poésie gitane, les gitans, c'est l'oralité qui prime. Ce n'est pas l'écrit. C'est pour ça que chez les gitans, par exemple, l'oral a une vraie valeur. Et par exemple, ça pose aussi des questions où aujourd'hui, on peut tout dire et n'importe quoi, promettre tout et n'importe quoi. Bon, bref. Et donc, je suis arrivé sur cette poésie gitane. Donc, c'est Alexandre qui écrit des poèmes chez Gallimard. Il fait partie des premiers poètes gitans à écrire dans cette prestigieuse maison d'édition. Et donc, tout de suite, ça m'a touché. Ça m'a connecté au niveau de... Ces poèmes m'ont connecté, on va dire, à mes émotions. Donc, je suis allé à son petit cirque. Et puis, j'ai retrouvé dans ce cirque, dans cette poésie, on va dire, des choses de mon enfance. Et je me suis dit, tiens, ça m'intéresserait de créer un spectacle éventuellement sur cet art. Et moi, je viens du sud de la France, donc je viens de Montpellier. Et là, je vous parle de Agde.
Agde.
Je suis à Agde en ce moment.
Donc du Cap d'Agde, c'est ça ?
Du Cap d'Agde, voilà. Alors c'est vrai qu'on connaît le Cap d'Agde pour son pour le naturisme.
Ouais, ouais.
Mais il n'y a pas que ça. Mais je vous en parlerai après.
D'accord.
Et donc, n'hésitez pas si je ne suis pas clair et si vous voulez m'interrompre.
Non, pour l'instant, je vous suis. Pour l'instant, je vous suis.
Bon, sinon, je peux aller plus lentement. Hein.
Non, non, tout va bien.
D'accord. Et en fait, donc, dans le sud de la France, donc à Montpellier, il y a une très forte communauté gitane.
Oui.
Et j'avais joué à l'époque un spectacle de Federico Garcia Lorca qui s'intitulait El Duende, qui est un des poètes qui s'est passionné pour les gitans.
Oui.
Et dans ma tournée, on arrive à Agde. Et là, on joue dans le cœur de ville d'Agde. Et la salle était remplie de gitans. Il n'y avait que ça.
Ah oui.
Donc, on était en train de jouer avec ma guitariste et ma danseuse de flamenco.
Mm-hmm.
Les gitans montaient sur scène, prenez des photos, nous arrêtait en plein show. Ouais. Ah, j'adore, je vais aux toilettes. Ah, je reviens, je vais manger un bout. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était exceptionnel parce qu'il touchait à quelque chose qui m'intéressait beaucoup, à savoir que le public participe à l'œuvre créatrice.
Mmh.
Et que le public doit être créateur de son art. Alors là, je me suis dit, mais j'arrive à quelque chose que j'ai retrouvé. Par exemple, quand on participait aux cérémonies aborigènes, je dansais, moi, avec les aborigènes. Avec les Indiens Navajos, on était censé fumer une sorte de pipe et après recracher la fumée pour se purifier. Bon, tout ça, le spectateur était participatif.
Mmh.
Et là, naturellement, eux ont participé au spectacle. Et là, je me suis dit, je vais les faire monter sur scène. Et donc, pour la première fois un petit peu dans l'art théâtral, puisque les gitans font de la musique, mais ils n'avaient jamais fait de théâtre. Et donc, à Agde, il y a quelques années, pour la première fois, j'ai fait monter des comédiens amateurs gitans sur une scène de théâtre.
D'accord. Et alors ?
Ah ben c'était exceptionnel. On a eu un public, on va dire, très captivé, puisqu'il y avait, ça a créé une sorte de buzz, pour tout vous dire. Il y a même les télés qui se sont emparés du sujet, TF1 Grand Reportage était sondu, France 3 Région est venue. Bon, il y a eu une effervescence, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, ils se sont réappropriés leur histoire. Les Gitans viennent d'Inde, et donc ça a été pour eux la possibilité, puisqu'ils disaient souvent, nous, ce qui nous gêne, c'est qu'on est spectateur et pas acteur de notre histoire. Savoir qu'ils disaient souvent, c'est des gens extérieurs à cette communauté qui parlent de nous, mais jamais nous. Et là, pour la première fois, ils ont écrit des témoignages,
oui,
où ils racontaient d'où ils venaient et où ils transmettaient cette histoire qu'on connaît peu. Et ils s'appuyaient sur des poètes gitans que moi je ne connaissais pas, notamment un poète qui s'appelle Joseph Simbach, qui a fait 25 ans de prison pour cambriolage. Bon, je ne sais pas après tout ce qui s'est passé. Et il a écrit de nombreux poèmes. Et donc, mon ami Thierry Patrac, qui est un gitan d'Agde, c'est une grande famille gitane, les familles Patrac. Il y a notamment Frédéric Patrac, qui est un champion du monde de boxe, qui entraîne ici à Agde. Donc, moi, je suis ami maintenant avec des champions d'Europe, des champions du monde. Mon concierge Christophe Rodriguez, qui est un gitan, est un triple champion de France, champion d'Europe. Alors, croyez-moi que je suis en sécurité.
Ouais, je me doute.
Rien ne peut m'arriver.
Ouais. Et le public qui vient, je suppose que ça n'est pas...
Le public qui est venu, ça c'était il y a quelques années,
ouais.
Il était halluciné. Ah, mais il était halluciné. Il était captivé.
Mm-hmm.
Parce qu'en plus de ça, ils ont dansé. Alors, ils n'avaient pas la technique du flamenco.
Ouais.
Moi, il y avait une danseuse de flamenco professionnelle qui danse dans les films de Tony Gadlis.
Ouais.
Mais là, il y en a qui dansaient, il n'y avait pas la technique, mais il y avait ce qui est nécessaire pour eux, ils le disent souvent, il y avait l'âme gitane.
Ouais.
Voilà, l'âme gitane.
Ouais, explique-nous, parce que je crois savoir ce que c'est, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est... parce que c'est énorme, énorme.
Ah ben, l'âme gitane, c'est exceptionnel, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Et pour moi, il y a quelque chose à voir avec la sublimation de la douleur de vivre en force vitale. Quelque chose de l'ordre de l'émotion pure, on va dire, qui ne s'exprime pas rationnellement, qui ne s'exprime pas par les mots, mais qui est quelque chose d'autre, qui est de l'ordre le supplément d'âme. Et cette émotion-là, on peut tous l'avoir vécue à des moments de nos vies, et rationnellement, on ne pourrait pas expliquer qu'est-ce qui a fait qu'il y avait l'âme.
Mmh.
Et bien, c'est ce mystère, on est connecté au mystère de la vie, au mystère de la mort, et il y a quelque chose, je vous dis, d'impalpable, de quoi qu'on peut palper, mais qu'on ne peut expliquer, et ça me fait penser à ce grand chanteur gitan qui savait ni lire ni écrire, et qui a dit, si j'avais su lire et écrire, j'aurais été moins beau.
Mmh. Mmh. Ouais, ouais,
et donc, eux, ils sont montés sur scène, et donc, ils avaient la force des amateurs, puisque moi, j'ai longtemps, je ne trouvais pas chez les comédiens professionnels, on va dire, ce que je cherchais, et qui était notamment connecté à mon enfance. Mmh. Et j'ai retrouvé chez les comédiens amateurs une fragilité, une vulnérabilité, une maladresse. Tout est visible chez les gitans,
ouais,
c'est-à-dire
ouais,
qu'on
ouais.
On se change devant les spectateurs dans sa caravane, les spectateurs passent, boivent un coup avec les gitans dans leur caravane, et 5 minutes après, ils vont faire le show sur un fil, vous voyez,
ouais,
et
il ouais.
n'y a plus de séparation entre l'art et la vie.
Pardonnez-moi, allez-y, continuez.
Non, mais moi, je parle beaucoup, vous savez, donc j'écoute un petit peu.
Cette fragilité... et en même temps, cette justesse du comédien amateur, en fait. Le dernier grand film que j'ai vu Et j'en vois hein, régulièrement, ce que j'appelle des grands films, ne sont pas obligatoirement joués par des comédiens amateurs. Mais le dernier grand film que j'ai vu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, c'est Sherazade.
Magnifique.
Voilà, et franchement, c'est une œuvre. Bon, voilà, c'est magnifique, c'est gigantesque. Et,
ah, c'est splendide.
Et ça me fait penser un peu à ce que vous racontez, là.
Et c'est drôle que vous me parlez de Jean-Bernard Marlin, parce qu'il est très proche de nous. Et figurez-vous, ben, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, bref, il est venu à Agde à plusieurs reprises.
Ah d'accord, bah, vous voyez, les grands, voilà. Les grands esprits se rencontrent, Benjamin.
Donc, bah, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire ça, mais en tout cas, il a des projets, voilà.
En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent accéder donc, par toutes les plateformes de location de films, enfin VOD, tout ça.
C'est magnifique.
Mais ce film est magnifique parce que, voilà, oui. Pratiquement joué, je crois, uniquement par des amateurs. Et voilà, d'une sensibilité, d'une vérité. Voilà. Et donc, on en revient à ce que vous disiez au début, lorsqu'on amène comme ça des gamins, comme dans ce film, qui n'avaient pas prévu d'ailleurs de jouer dans un film, qui font que d'un seul coup, ils se retrouvent devant une caméra et qu'ils doivent jouer leur propre vie, mais avec leurs mots, avec leurs sensations, leur sensibilité, et finalement, tout ce dont vous parliez au début de votre témoignage.
Bien sûr.
Eh bien, on accède à justement cette expression de nous-mêmes qui nous détermine, en fait.
Ah ben, c'est exactement ça. Et je vous dis, on a terminé de tourner, là, il y a 3 mois, le spectacle qui s'intitule L'âme gitane. Et on a joué 3 mois à Paris. Et ça a été un succès critique, puisqu'on a eu Télérama, Le Canard Enchaîné, Public.
Oui.
On a joué dans un petit théâtre. Et c'est une expérience qu'on veut prolonger et qui m'amène à cette autre expérience qu'on vit en ce moment donc à Agde, et qui est dans le cœur de ville. Donc c'est un projet sur 3 ans où différentes populations, puisque le cœur de ville d'Agde, on va dire, alors je ne sais pas si je peux aller jusque-là, mais il n'y a pas grand-chose, voilà, dans le cœur de ville d'Agde, qui est assez...
Non, mais
voilà, ça manque de moyens, on va dire, je trouve, par rapport à ce qu'on peut voir sur le Cap. Et donc, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du contrat de ville, un projet de 3 ans. Donc, on est soutenu par beaucoup de partenaires publics, la CAF, la région, bon, bref, la DRAC. Et suite à ce spectacle, on a missionné ma compagnie pour travailler avec des amateurs du cœur de ville. Donc, il y a beaucoup, bien sûr, de gens de la communauté gitane, mais pas que. Il y a aussi des gens de la communauté maghrébine. Il y a des gens en grande difficulté sociale et il y a des gens aussi du Cap d'Agde, on va dire, plus aisés. Et donc, 2 week-ends par mois, il y a même un comédien de la Comédie française qui intervient. Il y a des réalisateurs qui interviennent. On a même fait un échange avec l'université Paul Valéry. Alors ça, c'était exceptionnel. À savoir que des gitans... certains n'étaient jamais allés à l'école, mais qui ont une intelligence. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas été forcément à l'école et qu'on ne sait pas lire et écrire qu'on est stupide et crétin. Hein.
Non, l'intelligence est instinctive de toute façon.
Oui.
Elle restera instinctive dès le début. Donc,
Oui, et pour moi, il n'y a pas plus grand que l'intelligence du cœur.
Exactement.
Et je trouve que ça manque aujourd'hui par moment.
Cruellement.
Bref. Cruellement chez nos politiques et bon bref. Et donc ce qui se passe, c'est que en ce moment à Agde se passe une action qu'on a intitulée Body Agde. On est plus de 50 comédiens amateurs. Il y a différents artistes qui interviennent, des réalisateurs, des gens qui interviennent sur les séries qu'on connaît, Candice Renoir, Demain nous appartient, qui viennent à Agde pour transmettre leur savoir à toute cette population qui se mélangent avec des gitans, des maghrébins, des gens plus aisés, des femmes, des hommes. Et pour la première fois, on touche au théâtre et dans une action d'envergure le fameux public populaire des quartiers.
Mmh.
Et avec une vraie considération pour ce public-là. Et je trouve que souvent, on n'en a pas assez. C'est-à-dire que nous, les artistes, on doit aussi se remettre en cause. Et c'est trop facile de dire On ne touche plus le public populaire. Le public populaire, c'est la télé. Le public populaire ne peut pas avoir accès. Non, il peut être le public populaire est intelligent, mais c'est aussi à nous artistes d'aller vers lui.
Ouais, puis c'est un public qu'on a un peu oublié, hein, dans notre communication, promotion.
Oh là là, Olivier, vous qui avez pris des chemins de traverse, vous savez que les chemins de traverse sont longs, périlleux. Mais la sensation qu'on en a...
Ils sont beaux, en attendant.
Oh là
ils sont
là,
beaux et forts.
On vit des choses extraordinaires.
Mais vous savez que je viendrai avec plaisir vous rendre visite, en tout cas.
Ah bah j'aimerais beaucoup, et j'invite tous vos auditeurs, ce mardi 17 décembre, à Agde, à partir de 18h30, à la salle jeunesse, rue de la Fraternité. Il va y avoir des extraits de la comédie musicale avec le public du cœur de ville.
Ouais.
C'est gratuit. Il y aura des chants des petits gitans qui vont témoigner, chanter leur chant à eux.
Ouais.
Il va y avoir du théâtre avec des textes improvisés, d'oralité et aussi des textes plus littéraires. Il va y avoir de la danse, bachata, salsa, mais tout ça avec une vraie ambition artistique.
Ouais.
Et ensuite, une auberge espagnole avec un partage avec tout le public, et c'est à partir de 18h30 jusqu'à 21h.
Et rappelez-moi l'adresse, et c'est mardi.
Alors,
mardi,
c'est rue de la Fraternité, j'invite tout le monde, donc c'est à Agde, dans le cœur de ville,
mardi
à
17,
la salle
hein.
jeunesse, mardi 17 décembre, à partir de 18h30. Est-ce que je peux donner mon Facebook et le Facebook
Bien
de
évidemment.
La page de la... Ah bon, alors.
Bien évidemment, donc, et puis surtout, ce que vous ferez, c'est que vous ne raccrocherez pas tout de suite, parce que Natacha prendra hors antenne tout le lien. Comme ça, on mettra ça sur notre groupe de parole.
Vous savez, Olivier, je veux me permettre de vous le dire, parce que des gens comme vous, c'est assez rare. Hein, et je le sais, parce que ce que vous faites, c'est pas faux, c'est pas le clinquant. Et quand vous laissez parler les gens, c'est vrai. Je l'ai vérifié, puisque j'ai envoyé un message comme ça et ça s'est fait naturellement. Alors qu'aujourd'hui, je me lutte contre ça à travers mes actions. Quelqu'un qui vient des quartiers de Perpignan et qui veut monter, qui est gitan et qui veut monter sur les grandes scènes de théâtre français, c'est pratiquement impossible. Et l'écart entre quelqu'un qui vivrait dans les beaux quartiers du 5e arrondissement de Paris et qui pourrait avoir tout de suite tous les médias avec lui, je trouve que l'injustice est trop grande.
Oui.
La vie est injuste, ça on n'y peut rien, mais si on peut lutter corps et âme pour la rendre un petit peu moins injuste et apporter son petit grain de sel, son petit grain de sable, comme dit Pierre Rabhi, à ça, eh ben, c'est beau.
Et ne pas oublier une chose que je rajoute, c'est que ces fameux chemins de traverse dont vous parlez peuvent être chaotiques, difficiles, mais lorsque on y croit, ils sont peut-être un peu plus longs, mais à l'arrivée, beaucoup plus fort et beaucoup plus stable.
Oui, et je vais vous dire 2-3 petits proverbes gitans avant de terminer.
Allez-y, je vous en prie.
Au royaume de l'espoir, il n'y a jamais d'hiver.
Oui.
Quand un homme t'aide à traverser un fleuve, ne l'oublie jamais. Si tu veux me garder près de toi, attache mes deux mains avec tes deux tresses noires. Ne mésestime jamais le corbeau et le loup, car ils savent des choses que tu ignores. Ne te moque pas des riches, ça pourrait t'arriver. Si tu veux dire la vérité, assure-toi que tu as un bon cheval.
Merci je me permets beaucoup, dire Benjamin.
Je vous dis juste Facebook, c'est possible?
Mais oui. Alors dites-le-moi à l'antenne, comme ça, et puis n'oubliez pas, vous ne raccrochez pas tout de suite.
D'accord. Donc Facebook Body Agde ou mon Facebook personnel, Benjamin Barou Crossman, BARU-CRO2SMAN. Et vous m'envoyez un petit message, soit sur le Facebook Body Agde, soit sur mon Facebook personnel. Et je vous mettrai bien sûr des invitations pour tous vos auditeurs ce mardi 17 décembre à Agde. Et c'est gratuit.
Très bien. Eh bien écoutez,
félicitations.
Félicitations
et
plein
d'encouragement. Et on vous attend avec impatience.
Eh bien écoutez, je viendrai avec plaisir.
C'est noté alors. Et les gitans, on vous accueillera bien.
Alors, pas mardi là parce
non,
que.
Mais
je serai en tournage toute la semaine prochaine. Mais,
d'accord.
Mais j'ai noté que vous étiez là un moment. Donc,
longtemps. Et on sera aussi à Perpignan. Donc j'aimerais beaucoup vous inviter aussi à Perpignan, parce qu'on va faire barrage au Front National, au RN de Louis Alliot.
Ah bah alors
voilà,
vous,
je vous expliquerai comment.
Alors, n'hésitez pas à me le rappeler, parce que je viendrai avec engouement, engagement et avec grand plaisir.
Gentil. Merci infiniment de votre humanité et du cœur que vous avez.
Merci à vous, Benjamin. Bonne soirée.
Merci, Olivier.
Au revoir.
Bonne soirée.
Et ne raccrochez pas.
C'est gentil. Bonsoir. Merci beaucoup.